Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il a honoré la littérature française de ses écrits, mais il n'a pas honoré ses dettes tout au long de sa vie. Une vie plus compliquée qu'il n'y paraît, où il a enchaîné les déconvenues. C'est Honoré de Balzac, le poissard de la littérature que nous raconte maintenant Stéphane Bern, et ça c'est une chance.
Nous sommes à Paris en 1836, dans la prison où sont écroués les récalcitrants tentant de se dérober au service de la garde nationale. En ce 27 avril, un hôte de marque fait son entrée. Honoré de Balzac, l'un des plus fameux romanciers de son siècle. Celui qui est déjà un auteur à succès a réussi plusieurs fois à passer entre les mailles du filet, mais c'en est trop pour l'administration qui le fait enfermer. À peine arrivé, Balzac convoque son éditeur et lui demande de l'argent. Il ne compte pas croupir longtemps dans sa geôle, mais a tout de même l'intention d'en profiter. Durant la semaine qu'il passe emprisonné, il arrange sa cellule avec fauteuils et chandeliers, se fait livrer les mets les plus raffinés et invite son éditeur à partager sa table fastueuse avant de rapidement retrouver la liberté. Étonnante histoire, parfaitement à l'image de Balzac. S'il est honoré comme l'un des écrivains les plus prolifiques de son temps, étudié bon ou malgré par des générations de collégiens, admiré pour sa capacité à avoir su saisir la société et les mœurs de son temps dans la somme romanesque et la comédie humaine, Balzac aura toujours accumulé les ennuis, les dettes surtout, doué d'une étonnante capacité à les fuir ou les sublimer avec un certain panache. Balzac s'est souvent plaint d'être malchanceux. Le hasard, dit-il, m'a contraint à écrire mes désirs au lieu de les satisfaire. Le hasard ne fait pas tout. Ce sont surtout un train de vie incroyablement dispendieux et son piètre sens des affaires qui lui feront passer sa vie à rebondir sur les infortunes et à fuir les créanciers. Mais il faut bien admettre que la chance lui a manqué. Tout d'abord, car sa carrière littéraire commence par un échec. En 1820, financé par ses parents qui lui laissent 2 ans pour faire ses preuves d'écrivain, il compose Cromwell, une tragédie. Sa famille, dubitative quant à la qualité des alexandrins, soumet le texte à l'académicien François Andrieux. La vie est sans appel. L'auteur doit faire quoi que ce soit, excepté de la littérature. Peu engageant, hein, vous en conviendrez. Mais Balzac sait qu'il sera écrivain et surtout, il sera célèbre. Encore mieux, il sera riche. Balzac commence à vivre de ses écrits, produisant sous pseudonyme des cochonneries littéraires, comme il les appelle, pour des éditeurs exploitant une armée de petites mains. Il gagne peu et certainement pas assez. Il vise alors la fortune en devenant éditeur, avec l'idée novatrice de publier des classiques illustrés dans un format compact. Mais les ventes ne décollent pas. Il décide donc de devenir imprimeur pour mieux gérer l'affaire. Mais ça ne marche pas, toujours pas. Peu importe, il rachète une fonderie de caractères pour diriger toute la chaîne de production et s'assurer ainsi un substantiel profit. C'est un nouvel échec. En 1828, à seulement 29 ans, Balzac croule déjà sous les dettes. L'année suivante, son premier roman signé de son nom, Les Chouans, est un succès d'estime, mais pas encore un succès de librairie. La physiologie du mariage, puis la peau de chagrin, en 1831, le classe finalement parmi les auteurs qui comptent. Reconnu, certes, mais toujours pas fortuné. Il se lance alors dans le journalisme. Balzac est en fait à l'image de son personnage Lucien de Rubempré, que l'on retrouve dans Les Illusions perdues ou Splendeur et misère des courtisanes. Provincial ambitieux, voulant briller par son verbe, il adjoint une fausse particule à son patronyme et, se voyant refuser des romans écrits dans une mansarde, s'adonne au journalisme pour enfin parvenir à intégrer le grand monde. Les publications d'Honoré de Balzac dans de nombreux journaux en font un homme influent, mais il veut plus. Son ami Théophile Gautier raconte comment il a cherché à créer une sorte de société littéraire secrète du nom de Cheval Rouge, à l'image de la mystérieuse corporation de sa trilogie « L'Histoire des 13 ». Le but, Gautier le résume ainsi. S'emparer des journaux, envahir les théâtres, s'asseoir dans les fauteuils de l'académie, se former des brochettes de décoration et finir modestement pair de France, ministre et millionnaire. Rien de moins. Les membres de la société du Cheval Rouge ne se réuniront que quelques fois, bien incapables de payer les notes du restaurant qui les accueille. Pourtant, Balzac gagne sa vie. Il est lu dans toute l'Europe. Mais empêtré dans le cercle vicieux des dettes, il n'arrive pas à s'en sortir. Comme en 1835, quand il compte sur la vente de 1000 exemplaires de ses contes drôlatiques, mais pas de chance, le hangar où ils sont entreposés flambe dans un incendie. Pour se refaire, Balzac se tourne vers ce qui, à l'époque, paye le plus, le théâtre. Il fait adapter ses œuvres, souvent sous des formes à la limite de la caricature. Pourquoi ? Parce qu'il touche un tiers des droits. Et lorsqu'il s'implique lui-même, il connaît encore la malchance, comme en 1848, quand sa pièce « La Marâtre » obtient un certain succès, mais que le théâtre est fermé au bout de 5 jours, suite aux insurrections populaires au début de la Deuxième République. Balzac cherche aussi la fortune dans d'autres domaines. En 1838, il se rend en Sardaigne sur les traces d'anciennes mines d'argent, regorgeant de minerais qui feraient la richesse d'un éventuel acheteur. Après moult péripéties, Balzac arrive trop tard. Un investisseur à qui il avait parlé du projet l'a doublé et a acquis les mines à sa place. Toute sa vie, il déménagea sans cesse pour échapper aux huissiers et aux créanciers, souvent sous de faux noms, obligeant les visiteurs à user de différents mots de passe. À l'image de son personnage du cousin Ponce, il court les antiquaires et collectionne compulsivement. Il emplit ses intérieurs de bronze, porcelaine, tapis luxueux et tentures précieuses. Il pense un moment trouver le lieu idéal à Sèvres, dans sa propriété des Jardis, comptant profiter de l'ensoleillement pour y développer un jardin luxuriant et même y faire fortune en cultivant des ananas. C'est sans compter sur le mur de sa propriété qui ne cesse de s'effondrer, entraînant toujours de nouveaux frais. En 1840, Balzac choisit une maison sur les hauteurs de Passy pour le calme champêtre autant que pour les issues sur 2 rues différentes, lui permettant d'échapper rapidement aux fâcheux qui viendraient réclamer leur dû. C'est ironiquement rue Fortuné, qui porte désormais son nom, que Balzac s'éteint en 1850 auprès de la comtesse Anska qu'il avait épousée après 18 ans d'amours épistolaires et dont les deniers payèrent cette dernière demeure. Il en va souvent ainsi des grands hommes dont la vie s'oublie derrière leur œuvre. Celle de Balzac n'a certes pas toujours été chanceuse, mais elle fut aussi riche que celle de ses personnages. Et c'est certainement Baudelaire, louant celui qu'il admirait, qui le dit le mieux. « Et vous, ô honoré de Balzac, le plus héroïque, le plus singulier, le plus romantique et le plus poétique parmi tous les personnages que vous avez tirés de votre sein. »
Europe 1, historiquement vôtre.